Chapitre 57. L'air paraissait plus froid, le chemin plus chaotique que dans mon souvenir. Nathan devait courir dans les galeries de Montségur. Le ciel d'un noir à peine moins dense que celui des bois alentour était constellé d'étoiles. J'avais une dizaine de kilomètres à parcourir, dont la moitié en descente. Mon esprit tournait aussi chaotiquement que mes roues sur les cailloux. Il était presque 4 heures du matin. J'aurais voulu être encore un enfant, avec les mêmes amis, mes parents, aucun risque à courir, des rêves sur la vie et pas de doute sur l'avenir. J'aurais voulu savoir jouer du piano. J'avais toujours envié ceux qui pouvaient faire passer leurs émotions à travers cet instrument. J'aurais voulu partir en vacances, loin, mais sans quitter personne. Je détestais ça, quitter. Je pensais à tout et n'importe quoi, sans cohérence, incapable de fixer mon attention. Aucune fée n'est apparue pour exaucer mes souhaits nés de la fatigue, de la tension nerveuse, du sentiment d'irréalité que j'éprouvais d'avoir quitté la cité pour revenir au monde ordinaire. Au pied du village, la route remontait. Je me concentrais sur le bitume obscur, les irrégularités dans la chaussée. J'avais moins le loisir de laisser divaguer mon esprit. Plus que 3 ou 4 kilomètres avant d'arriver chez les archéologues à la dynamite. J'aurais de quoi te raconter dans mon nouveau cahier. Si seulement il faisait un peu moins froid. Les tout derniers kilomètres se firent sur un chemin de terre. La boue, sculptée par le passage de leur véhicule et figée par le gel, formait un exceptionnel terrain de torture pour les roues de mon vélo et mes muscles endoloris. Les quelques maisons près desquelles j'étais passé étaient soit endormies, soit abandonnées. Les seules lueurs que je distinguais parfois, au détour d'un virage, provenaient de leur camp. Rien n'avait été laissé au hasard. À plusieurs centaines de mètres en amont, des panneaux indiquaient que le chemin était barré. Les promeneurs étaient invités à faire demi-tour en 4 langues. Les abords de leur base tenaient davantage d'un camp militaire que d'un site archéologique. J'arrivais sur une barrière flanquée d'un poste de garde. La zone était puissamment éclairée. Je descendis de vélo et allai frapper au carreau. La sentinelle se réveilla en sursaut et sortit aussitôt, tentant maladroitement de dissimuler son pistolet mitrailleur derrière son dos. « Qu'est-ce que vous voulez ?» fit le garde sur un ton peu aimable. « Je viens voir votre chef. » Il regarda sa montre, l'air endormi. « Vous savez l'heure qu'il est, revenez demain. » « Si je reviens demain, ce sera avec les flics pour vous faire embarquer. Destruction à l'explosif, c'est un délit. Alors je répète, je souhaite voir votre chef. » Sans me quitter des yeux, le garde passa sa main libre dans son cabanon. Il en ressortit un talkie-walkie et appela. La réponse fut longue à venir. J'entendis grésiller la voix, on lui répondit de me renvoyer. Je lui arrachai le talkie et enfonçai la touche. « Je suis l'homme que vous n'avez pas réussi à tuer sur les quais, » grondai-je. « Je vous conseille de vous ramener ici, et vite. » Personne ne répondit. Je rendis le talkie à son propriétaire qui me regardait, stupéfait. « Arrangez votre tenue, » dis-je. « Vos supérieurs vont arriver et vous avez l'air de sortir du lit. » L'homme posa son pistolet mitrailleur en équilibre sur la barrière et se rajusta. Il me fixait comme si j'avais perdu la raison. Ça m'arrivait de plus en plus souvent ces derniers temps. Puis il reprit son arme et se campa droit sur ses jambes pour se donner contenance. Un groupe d'hommes ne tarda pas à arriver. Sur les 5, je n'en reconnus qu'un, Karl Zillermann. Il me dévisageait, les traits tirés, réussissant difficilement à masquer sa surprise derrière un rictus qui se voulait un sourire condescendant. J'avoue qu'un instant, j'aurais préféré qu'il ait été lui aussi enseveli sous la galerie. Sa présence me remémora instantanément tout ce que mon plan avait d'insensé. Je chassai ses pensées. J'avais besoin de toutes mes ressources pour ce jeu-là. Il s'arrêta contre la barrière. « Mais regardez qui voilà !» Cet homme mourait d'envie de terminer le job qu'il avait raté la première fois. Cela se lisait dans ses yeux et il n'hésiterait pas longtemps. Je devais jouer sur l'effet de surprise et avancer mes pions rapidement. « Je viens vous aider, je veux voir votre responsable ici, votre chef, Habermeyer. » L'éclat dans ses yeux révéla qu'il me trouvait bien informé. Il n'était pas au bout de ses surprises. « Mais bien sûr, on va arranger ça. Laissez votre luxueux véhicule ici, notre homme veillera dessus. » Il claqua des doigts et un de ses hommes ramassa le VTT en affichant une moue de dédain. Nous prîmes le chemin du camp, Zillerman en tête, ses sbires m'entourant de près. Au milieu d'un virage, Zillerman se retourna brutalement. « Maintenant dites-moi ce que vous faites ici et ce que vous voulez. » « Rien qui vous concerne, vous. C'est à Horst Habermeyer que je veux parler. » Il m'expédia un coup de poing à l'estomac qui me plia en deux. L'enfoiré, il savait où taper. Il me releva par les cheveux et grinça entre ses dents. « Je souhaite, dans votre intérêt, que vous répondiez aux questions que je vous pose. » Il me balança un direct au visage. Le goût du sang m'emplit la bouche. « Nous avons un compte à régler tous les deux, » reprit-il, l'air mauvais. Il s'apprêtait à me frapper de nouveau. Je ne m'étais même pas rendu compte que ces hommes me maintenaient. « Écoute, connard, » lui lâchai-je dans un souffle, « je suis venu pour aider ton chef. Si tu ne me laisses pas lui parler, je n'aurai même pas à te tuer, il s'en chargera lui-même. » Il suspendit son geste. « Et en quoi consiste cette aide ?» Il avait dû me fendre la lèvre car je sentais le sang couler sur mon menton. Je pris mon temps pour répondre. « Tu peux me tuer, tu ne sauras rien. Le temps passe, dépêche-toi de le réveiller. Tu sais que je ne mens pas. » Il fit un signe brusque pour ordonner à ses hommes de me lâcher et se remit en marche. Je m'essuyai d'un revers de manche. Dans leur campement, une demi-douzaine d'élégantes berlines grises étaient garées côte à côte. Une dizaine de tentes de réception, à larges rayures grises et blanches, s'alignaient à la lisière des bois. Drôle de garden party. Plusieurs d'entre elles étaient éclairées. Au loin, en arrière, le château sur son pic dominait l'ensemble de toute sa hauteur. Je n'arrivais pas à repérer la bouche d'aération qu'ils avaient dynamitée. Le camp devait être vaste, tant le ronronnement des groupes électrogènes paraissait lointain. Il y avait des camionnettes, des véhicules tout-terrain. L'ensemble était surveillé par des hommes en armes, parfois accompagnés de chiens. Un homme sortit d'une tente plus éclairée que les autres pour venir à notre rencontre. Il s'adressa à Zillerman en allemand. Je l'avais déjà vu, et visiblement lui aussi me connaissait. Il me demanda, dans un français impeccable, de bien vouloir le laisser me fouiller. Il ouvrit mon sac, observa quelques objets, feuilleta le cahier encore blanc et sortit le couteau et les détonateurs. Puis-je vous demander ce que vous aviez l'intention d'en faire ? Ne les perdez pas, on vous demandera peut-être de me les rendre. Il me lança un regard sceptique, puis procéda à une fouille au corps dans les règles. Il était si près que je sentais les effluves de son eau de toilette. Le contraste entre son costume immaculé, les tentes de kermesse, les voitures de luxe, la boue gelée, les hommes armés étaient assez cocasses. Il m'invita à rejoindre la tente. Tout allait trop lentement. Les quatre hommes ensevelis manquaient peut-être déjà d'air. Rien ne laissait supposer qu'Habermeyer et sa clique aient tenté quoi que ce soit. Il n'y avait pas d'agitation, aucune opération de sauvetage ne semblait avoir été lancée. Tout était trop calme. Un garde tenant un chien en laisse s'approcha. Il laissa l'animal, un superbe dogue à l'allure peu engageante, me flairer. « Excusez-nous, simple formalité. Vous aviez des détonateurs, nous vérifions que vous n'avez pas d'explosifs. » Le chien releva le museau et couina en regardant son maître, qui le tira à l'écart. L'homme en costume souleva alors le pan de la tente. « Si vous voulez bien vous donner la peine, laissez tomber le protocole. Après les coups, c'est un peu déplacé. » Je pénétrai à l'intérieur.